Ah, on n'a pas pu sortir, le parc était demi de neige, puis les châssis tout bloqués.
Au moins 2000 automobilistes ont abandonné leur voiture le long des rues. Raymond Charrette, non seulement vous avez abandonné votre voiture, mais vous nous avez abandonné aussi. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe que, comme plusieurs autres, je suis absolument paralysé. Il est absolument impossible de circuler là où j'habite, à Duvernay. Ma voiture est dans mon entrée de garage, je ne l'ai pas abandonnée. Mais maintenant, je ne la vois plus du tout. Elle est enterrée sous la neige. J'ai même pas,
pas de pelle,
l'idée qu'il y a une voiture en dessous.
Vous n'avez pas de pelle chez vous.
Mais ma pelle est dans ma voiture.
Ah bon?
Convient d'éviter de se trouver exposé aux intempéries de la nature. Le beau temps va revenir et puis ça va se calmer.
Ça, c'était le maire Drapeau, si je me trompe pas, c'est ça. Alors, extrait d'archives, donc, de Radio-Canada. Juste avant, c'était Simon Durivage qui commençait sa carrière d'animateur. Paul Oud.
Bonjour, Bernard.
Animateur des week-ends de Paul Oud et monsieur. C'était quelque chose.
Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé la tempête du siècle. D'ailleurs, j'ai quelques statistiques pour dire que ça n'a pas été la tempête du siècle, mais dans nos esprits, elle est demeurée pour différentes raisons. Vous avez entendu Raymond Charrette,
oui,
le père de Christiane. Il habitait Duvernay, et moi aussi, j'étais très jeune à l'époque, j'étais au secondaire, et on habitait Duvernay, et ce qu'il a décrit à l'effet que dans son entrée de garage, sa voiture avait disparu, on a vécu ça chez nous aussi le 4 mars 1971.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pouvais marcher littéralement sur la neige et la voiture du papa est en dessous?
Tout avait disparu. J'ai un de mes amis, sa mère habitait rue Desjardins à Montréal. Ça, c'est tout près du Stade olympique. Pinneuf, Stade olympique. Et une photo remarquable qu'il m'a envoyée hier soir, 50 ans plus tard, où sa mère est avec une pelle dans la cour arrière et il y a des cordes qui sont à sa hauteur. Eh bien, ce sont les cordes à linge. C'est-à-dire que la neige était tellement compacte, s'était accumulée à une telle hauteur qu'elle, avec sa pelle, était à la hauteur de sa corde à linge.
C'est quelque chose. Et l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas juste beaucoup de neige, Paul Oud, il y avait beaucoup, beaucoup de vent, des vents qui avaient dépassé les 100 km/h à un moment donné. Alors ça a contribué aussi à faire des méchants bancs de neige.
On a eu des bourrasques qui ont atteint 108 à 112 km/h à Montréal, pas dans les grandes plaines, à l'extérieur. Et c'est, Bernard, pourquoi c'est devenu la tempête du siècle. Je te l'explique en quelques secondes,
oui,
seulement. Ça avait commencé très, très, très lentement la veille, le 3 mars. Et puis dans la nuit, on a vu que la neige, bof, c'était intensifié, mais ça n'a pas empêché mon père de partir en autobus très tôt le matin du 4 pour aller travailler. Et on l'a perdu. Il a été porté disparu comme beaucoup de gens.
T'es-tu sérieux?
Oui, oui, oui. Ma mère était au désespoir. Mais on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'Internet à l'époque. Pas de nouvelles de lui. Il était rendu 3h, 4h l'après-midi. Ne s'est jamais pointé à l'ouvrage. Alors, ma mère était au désespoir. Et il est revenu à la maison vers 6h seulement, donc 12h après son départ, complètement glacé, transi de froid. Il avait été transporté par des motoneigistes bénévoles.
Les motoneigistes ont été extraordinaires pendant la tempête du siècle. Ça a vraiment été, ça a sauvé des vies, plusieurs vies, là.
T'as tout à fait raison. Et ce sont des gens qui l'ont fait sur une base volontaire, bénévole, spontanée. Ils ont répondu à l'appel pendant au moins 24 heures.
Il y a des femmes enceintes qui ont été transportées à l'hôpital par des motoneigistes pour pouvoir aller accoucher, Paul.
Absolument. Le maire Drapeau avait décidé d'ouvrir le métro 24 heures sur 24. Alors, il y a des gens qui en ont profité pour dormir dans les stations de métro, mais tu avais des motoneigistes qui allaient chercher des gens qui étaient malades ou, comme tu l'as dit, des femmes enceintes pour aller les conduire à l'hôpital. C'était une grande chaîne humaine, mais les motoneigistes, cette journée-là, ont été des anges gardiens.
Écoute, Claudette, elle dit « Je suis en train d'écrire mes mémoires ». Elle dit « Voici comment ça s'est passé. Lorsqu'on a ouvert la porte avant, tout ce qu'on voyait, c'était un mur de neige. On n'avait jamais vu ça. Il a fallu sortir par la porte du garage. Dans l'après-midi, nous sommes partis tous les quatre, toute la famille, pour aller acheter du lait au magasin Perrette, hein, les ancêtres de nos couche-tard. Oui. Elle dit « Nous avons sorti le traîneau Nous avons emmitouflé nos enfants et nous avons fait la plus belle promenade d'hiver de notre vie avec les enfants.
Oui, et je vais te conter une autre anecdote. Toujours à Duvernay, une énorme charrue décide d'ouvrir la voie sur notre rue où j'habitais. Et la charrue est demeurée bloquée, Bernard. Bloquée parce que sa pelle avant n'arrivait pas à déloger la neige qui était tellement compacte. Alors là, ils ont été à la ville obligés d'appeler deux souffleuses qui sont passées non pas sur le bord de la rue, mais en pleine rue, en plein milieu, pour ouvrir ce qu'on appelle une travée, pour permettre à la charrue ensuite de relancer la neige. Et tout ça, je te dis, dans un contexte où ça n'a pas été la tempête du siècle au niveau des précipitations.
Non.
Cette tempête, les gens l'amplifient depuis 50 ans. On a l'impression qu'il est tombé 200 centimètres. Non, il est tombé à peine 43 centimètres. À l'observatoire de Dorval.
Mais le vent a continué.
Mais c'est le vent.
Ben oui. Alors, on a des appels, Paul. On a Benoît d'abord qui veut nous raconter justement une histoire de motoneige. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour, Bernard et Paul. Moi, je me souviendrai toujours du 4 mars 71. J'avais à peine 11 ans. Et puis, la tempête donne... Je demeurais à Blainville dans ce temps-là. Blainville, c'était pas comme aujourd'hui. C'est un village. Et puis, nous avions une motoneige, une Snow Cruiser 1965-66. C'était large, puis ça passait partout. Fait que il y avait tellement neigé que mon frère le plus vieux, il allait faire des commissions pour des gens qui avaient besoin de lait, de pain. Ça avait duré un bon 2 jours, là, si ma mémoire...
Elle vous sert bien. Elle vous sert bien, votre mémoire, Benoît.
Oui, puis c'était, comme disait Paul tantôt... Les motoneiges, là, ont vraiment aidé dans ce temps-là. Puis je peux pas croire que ça fait déjà 50 ans, parce que à tous les 4 mars, j'ai toujours une pensée pour cette fameuse tempête de neige-là.
Merci, Benoît.
Bernard, je voudrais juste ajouter une chose. Que Benoît a dit, pourquoi ça a duré si longtemps? Les gens ont complètement oublié que le dimanche suivant, 3 jours plus tard seulement, donc le 7 mars, il est retombé 18 centimètres de neige.
C'est ça.
Donc, coup sur coup, Bernard, on a eu 43 centimètres plus 18 à Montréal.
J'ai Sergio qui m'écrit. Il dit, bon, en ouvrant la porte du garage, c'était un mur de neige. On montait sur le banc de neige, on pouvait toucher la lumière du lampadaire de la rue. Il dit, il y a eu des motoneigistes qui allaient chercher du monde à Montréal par le pont-tunnel en passant par-dessus les autos.
Oui.
Hein? Non, c'est quelque chose. Alors, Luc, tu es là, mon cher Luc?
Oui.
Alors, toi, t'avais quoi, 30-40 ans déjà à ce moment-là? tu vivais à Rimouski, tu vivais à Rimouski.
Oui, je vivais à Rimouski, puis on y avait goûté, nous autres aussi. Moi, je me souviens de 2-3 choses. Premièrement, la neige, le banc de neige en avant de la maison était à la hauteur du toit. Et ça a pris beaucoup de temps. C'était sombre chez nous pendant des semaines parce que le temps que ça descende, bon. Et ensuite, la voiture de mon père était comme celle que vous avez décrite là, tout à l'heure. Là.
Oui.
Elle était complètement ensevelie. La chose, c'est qu'on savait qu'elle était là. Alors là, mon père avait mis un 5$ sur la table pour qu'on aille pelleter, puis on s'était fait aider. Mais il fallait envoyer la neige tout le temps du même bord. Ça a fini par bâtir une montagne de neige tellement énorme que là, les jeunes, parce que moi, j'étais un petit peu moins jeune, j'étais comme Paul à l'école secondaire, et les jeunes de la rue, eux autres voulaient se faire un fort là-dedans. Ça fait qu'on les a aidés, puis ça a failli se terminer en guerre des tucs. Là, tu comprends? À la fin, quand le chien meurt, parce que là, on a monté. On les a aidés, il y avait des tunnels, il y avait toutes sortes d'affaires dans ça. Bon. Et à un moment donné, badang, ça s'est effondré. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur.
Heureusement, il n'y avait pas de chien en dessous. Là, bouge pas, Luc, bouge pas, Paul. J'ai Alain qui m'écrit. Il dit, mon père racontait que dans le temps, transportant de la bière pour O'Keeffe, pris sur le pont Champlain avec un livreur de viande froide, ils ont sorti la bière et la viande, puis ils ont entendu que le pont rouvre. Ils sont nourris à la bière et à la viande froide. Et là, j'ai Marc Fortin, notre chroniqueur circulation, qui t'as une anecdote.
Ben, je me souviens de ça, Bernard. Écoute, j'habitais à Saint-Lambert. Puis à Saint-Lambert, on a la rue Riverside, et là, il y a un immense parc, OK? Donc, le vent soufflait. Et mon papa avait une motoneige. Puis le métro de Longueuil, il était ouvert à cette époque-là.
Oui.
Alors, il m'a dit, fiston, je conduis la motoneige, toi tu t'en vas dans le traîneau en arrière, tu t'assures que les couvertures partent pas au vent, tout ça. On s'en va au métro, on allait chercher plein de monde au métro et on les reconduisait. Écoute, pas jusqu'à Saint-Constant, tout ça, là. C'est un tubaire.
Mais c'était comme un show, un service de taxi.
Taxi, motoneige. Il ventait, il neigeait, toi. C'était épouvantable. Mais c'est un souvenir impérissable.
Ben oui, puis c'est un beau moment avec ton père.
Ben oui.
Hein?
Ben écoute.
Puis là, t'as appris la solidarité.
Oui, monsieur.
Mais bravo,
oui,
mon cher Marc Fortin.
T'étais pas aussi vieux que Luc à l'époque.
T'étais pas aussi vieux que Luc. Paul, vas-y.
J'ai une anecdote que Luc va aimer, et toi aussi, Bernard, vous qui avez évidemment l'expertise politique. La nouvelle du jour, au matin du 4 mars, quand, avant même qu'on parle de la tempête comme étant la tempête du siècle, savez-vous ce que c'était? C'est que le célibataire le plus convoité avait décidé de se marier. Pierre Elliott Trudeau avait épousé Margaret Sinclair.
C'est vrai.
Sans avertissement. En Colombie-Britannique. Et toutes, on avait beaucoup moins de médias, hein, et certainement pas l'Internet. Tout le monde à la radio parlait, incroyable, Trudeau s'est marié, Margaret Sinclair, qui est-elle, blablabla. Et puis ça va faire qu'on n'aura pas d'élection au printemps parce que le premier ministre veut faire sa lune de miel avec sa nouvelle épouse. Tout ça a été évaporé, emporté par le vent. Bon. Et après ça, on n'a parlé que de la tempête tout le reste de la journée.
Merci, mon cher Paul Oud, d'avoir participé à cette émission pour nous remémorer ces moments. Je te souhaite une très bonne émission demain, Paul.
Après-demain.
Après-demain, pardon. Et je te salue, mon cher Luc Lavoie.
À tantôt, Bernard.
Ben oui, t'es plus jeune que jamais. Faites-en pas avec ça. OK, on se reparle. On s'en va à la pause. Au retour, on va parler un petit peu des CHSLD, parce que là, commence à y avoir une petite discussion sur la sexualité dans les CHSLD. Comment est-ce qu'on gère ça? Ah, vous allez voir, c'est pas évident.